7h06 exactement. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 pour réagir avec nous. 418-971-1021. On est disponible également sur twitch.tv/BLVD/FM. Et venez nous voir justement sur Twitch parce que c'est l'ami Farnel Morissette qui est présent avec nous. Farnel, comment vas-tu? Oh, attends, je vais ouvrir ton micro, Farnel. Ça va bien?
Ça va mieux maintenant qu'on m'entend, mais ça allait bien avant aussi. Oui.
Exactement. Hey, Farnel, on parlait beaucoup hors d'onde de cette campagne, justement, municipale, et on va en parler énormément ce matin parce que Sam Hamad va être avec nous aux alentours de 8h. Stéphane Lachance, chef de Respect Citoyen, va être avec nous aux alentours de 8h30, et on travaille très fort pour que Jackie Smith vienne faire son tour aussi en studio, la chef de Transition Québec. Mais toi, là, qui es un spécialiste des médias sociaux, es-tu capable de retirer facilement une vidéo de tes...
Ben, faut que je me coordonne stories avec mon équipe. Ça peut prendre 3-4 jours. C'est retirer une vidéo des médias sociaux. Je me demande, à vrai dire, est-ce que Sam Hamad a contrôle de ses propres médias sociaux? Parce que s'il les a pas ou s'il sait pas comment ça fonctionne, là, ça peut être un peu plus long.
C'est problématique.
Mais non, enlever une vidéo, c'est une affaire de 2 secondes. Là, je veux dire, avec mon téléphone, n'importe quand, en moins de 15 secondes, je peux retirer une vidéo. C'est pas long.
Non, c'est ça exactement. C'est pas long. Est-ce que ça prouve à quel point Sam Hamad, justement, néglige les médias sociaux, pense qu'il ne gagnera pas la mairie avec les médias sociaux alors que c'est tellement rendu important dans une campagne électorale?
Ouais, ben j'ai l'impression que M. Hamad fait une campagne comme s'il était encore en 1995, comme si une campagne électorale, ça se fait uniquement à la radio, à la télé, puis avec des dépliants par la poste. Je pense qu'en 2025, tu ne peux pas faire une campagne sans les médias sociaux. C'est pas un élément secondaire de ta campagne, c'est un élément central à ta campagne. Et puis, en tout cas, l'écouter parler, le voir aller, j'ai comme l'impression que M. Hamad, pour lui, les réseaux sociaux, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas une stratégie qui va être payante en 2025.
Clairement. Et es-tu comme moi à l'effet que je vois les adversaires de Bruno Marchand, et là, je fais juste un exprès pour dire les adversaires de Bruno Marchand parce que c'est lui le maire de Québec. Donc, Claude Villeneuve, Jackie Smith, Stéphane Lachance s'amusaient à plus planter Sam Hamad que Bruno Marchand. Si vous voulez gagner la mairie, c'est le maire qu'il faut attaquer, c'est pas Sam Hamad.
Ouais, là-dessus, je suis pas certain parce que j'ai comme l'impression que, nous qui suivons ça, on regarde les plateformes puis on regarde les idées, mais je pense que pour beaucoup des électeurs dans les élections municipales, partout à travers le Québec, là, pas juste à Québec, c'est largement presque toujours des élections référendaires sur le maire actuel. Alors, qu'ils s'attaquent entre eux, tôt comme on est dans la campagne, je pense qu'ils essaient tous de s'établir comme étant le choix alternatif au maire actuel.
Ouais, ouais, j'aime ta
vision. Alors, c'est pour ça qu'ils s'en prennent entre eux, parce que dès qu'il y en a un qui va se démarquer clairement comme étant « OK, ben l'opposition, c'est lui ou c'est elle », après ça, dès que ça s'est fait, là, cette personne-là qui s'est démarquée comme étant l'opposition claire au maire va commencer à s'attaquer au maire. Mais présentement, on essaie toujours de faire une élection à deux pôles, le maire et celui ou celle qui se présente comme l'opposition claire au maire.
Est-ce que présentement, avec les difficultés de Sam Hamad, tu vois l'alternative changer? Parce qu'on parle d'une course à deux, là, puis les sondages le montraient, puis tu sais, Claude Villeneuve est pas vraiment là. Stéphane Lachance, pas vraiment là non plus. Mais est-ce que si Sam Hamad continue à avoir une campagne difficile de même, tu penses que ça peut changer ou avec son CV, avec le nom Sam Hamad, on est condamné à cette course à deux-là entre Bruno Marchand et lui?
Je pense pas qu'on est condamné à une course à deux. Je pense que c'est encore tôt, mais on parlait des réseaux sociaux. Justement, moi, c'est ça que je regarde. Là. C'est sûr que l'équipe de Claude Villeneuve a une présence un peu plus importante sur les réseaux sociaux qui commence depuis les dernières semaines. Ça, je pense que ça va jouer beaucoup. L'équipe de Transition Québec, qui est généralement un peu plus jeune, a aussi une présence un peu plus importante sur les réseaux sociaux aussi. Alors, on verra. Moi, je suis pas prêt à dire que le nom de Sam Hamad est tellement lourd, tellement fort aujourd'hui que c'est garanti que Sam Hamad va être un des deux dans la course à deux. Je pense pas que c'est vendu d'avance. Ça.
Donc, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui vient nous surprendre du champ gauche.
Ça pourrait être quelqu'un qui est capable de se démarquer avec une communication claire, avec des idées qu'il présente de façon claire, qui est capable de communiquer directement aux gens. Encore une fois, les réseaux sociaux vont être un facteur clé là-dedans. Je serais pas surpris, moi, que dans les prochains mois, un Claude Villeneuve vienne shifter Sam Hamad pour l'espèce d'opposition de deuxième place.
Ah, intéressant ce que tu nous ramènes. Farnel, tu parles de communication claire. Je vais te faire entendre justement un 30 secondes de communication claire à la commission Gallant.
J'ai pas souvenir de m'être adressée à ce collègue-là au sujet de Kazan. Peut-être vaguement, puis peut-être qu'ils m'ont donné de l'information, mais j'ai pas souvenir de l'avoir fait. On n'arrive pas à se souvenir exactement, là, j'en ai discuté avec... Est-ce que M. Sioui, le président du conseil d'administration, était présent ou non? J'arrive pas à avoir un souvenir clair de ça. J'ai pas de souvenir, tu sais, c'est un peu comme l'autre page. J'ai pas de souvenir spécifique, de conversation spécifique sur une page spécifique. J'ai aucun souvenir qu'on ait abordé ce sujet-là, non.
Farnel, est-ce que j'ai pas souvenir, j'ai aucun souvenir, c'est flou dans ma tête, c'est de la communication claire qui a été faite par la vice-première ministre du Québec?
C'est drôle à dire, oui, est-ce qu'il y a des gens qui abusent peut-être de la faculté imparfaite
ouais,
de
la mémoire? La mémoire d'une faculté qui oublie.
Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ça peut-être un peu, mais je vais être très honnête avec vous, ça me dérange pas tant.
Ah non?
Non!
Et moi, ça me dérange parce que t'es la vice-première ministre, t'es la ministre du Transport, t'as rencontré des gens importants pour la plus grande transition numérique de l'histoire du Québec que tu dis, j'ai pas souvenir, là. Hey, non, ta job, c'est de se souvenir puis de gérer à patente.
Qu'est-ce que t'as soupé vendredi soir passé?
Qu'est-ce que j'ai soupé vendredi soir passé? On s'est fait...
Ah, toi, t'as une trop okay, bonne mémoire.
Est-ce que tu trouverais ça normal que moi, je me souviens pas de ce que j'ai soupé vendredi soir passé, mettons?
Ben oui!
Puis là, je sais ce que les auditeurs vont dire. Mais voyons donc, c'est pas la même chose. Là, on parle de contrat qui vaut 500 millions.
Ben,
versus...
exactement
je comprends ça.
Ça.
Mais c'est ce qu'on n'entend pas dans ces montages-là, c'est les questions elles-mêmes. T'sais, c'est des questions du genre, est-ce qu'un tel sous-ministre adjoint était présent à cette réunion-là? Avez-vous discuté de telle page d'un tel contrat envoyé par courriel il y a 3 ans? Je préfère nettement quelqu'un qui dit « je m'en souviens pas » que quelqu'un qui dit n'importe quoi pour essayer de se sauver le cul. Est-ce que, encore une fois, là, je suis pas naïf. Là. Je sais que le « je m'en souviens pas » est un peu facile, mais pour moi, c'est une distraction, cette question-là. C'est super beau parce que ça fait des soundbites super drôles entendre une ministre dire « je m'en souviens pas, je m'en souviens pas, je m'en souviens pas ». C'est très drôle. C'est drôle si c'était pas aussi tragique pour l'enjeu. Mais c'est que... La vraie question pour moi, c'est que si ces questions-là sont tellement importantes qu'elles ressortent en commission aujourd'hui, puis je veux dire, je comprends, là, c'est des questions importantes. Est-ce que tel sous-ministre, est-ce que tel fonctionnaire était présent? Avez-vous discuté de tel enjeu spécifiquement dans cette réunion-là il y a 2 ou 3 ans? Je comprends qu'on ne s'en souvienne pas d'une mémoire humaine, mais pourquoi il n'y a pas eu de notes? Pourquoi il n'y a pas eu de procès verbal? Pourquoi il n'y a pas eu d'enregistrement? Je veux dire... On a encore des notes assez détaillées de qu'est-ce que les empereurs de Chine mangeaient à tous les jours il y a 1000 ans. Parce que c'était une culture où on prenait des notes du genre sur absolument tout, si jamais c'était utile à l'avenir. Je pense pas que c'est nécessaire d'aller jusqu'à noter c'était quoi le menu puis qui a mangé quoi de take-out ce soir-là, mais au moins savoir qui était présent à quelle réunion, un procès-verbal qui aborde qu'est-ce qu'on a discuté en assez de détails pour que si jamais on a besoin de faire une révision, voir s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des bourdes, s'il y a eu de la négligence, ben on ait un accès à l'information qui va plus loin que la mémoire humaine, qui est une faculté qui oublie.
Parce qu'à un moment donné, ce qu'on se rend compte avec cette commission Galant-là, c'est qu'il y en a probablement des informations qui sont pas sur papier puis que c'est prévu de même, là, tu sais, pour ouais. pas laisser de traces.
Ouais, puis c'est pas juste un problème avec la commission Galant. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec ce gouvernement-là pendant la COVID, où on prenait des décisions sans qu'il y ait de procès verbal, sans qu'il y ait de notes. Puis c'est pas limité à ce gouvernement-là aussi, disons-le. Là, on a eu des gouvernements passés qui étaient peut-être un peu défaillants dans leur prise de notes aussi. Puis on peut peut-être croire que c'était peut-être un peu intentionnel pour que plus tard, on puisse dire justement, ah, je le sais pas, je m'en souviens pas. C'est une question pour moi de pratique, parce qu'on sait que c'est trop facile de dire « je m'en souviens pas », ben si on sait que ça c'est l'excuse qu'on va nous donner, prenons des mesures d'avance systématiques pour s'assurer que si on n'a pas la mémoire humaine, on va avoir une autre forme de mémoire institutionnelle.
Ouais, j'aime où tu nous amènes, parce que dans le fond, la réponse « je ne sais pas », tu me dis « hey Jeff, ça se peut qu'elle s'en souvienne pas qu'il était présent dans une rencontre ouais. v'là 2 ans », mais en tant que gouvernement responsable d'une transition numérique de la sorte, on se doit d'enregistrer les réunions, on se doit de produire des procès-verbales, on se doit de laisser des traces pour se souvenir à quel endroit on était en 2022 puis à quel endroit on est rendu en 2025.
Ouais, puis tu sais, c'est même pas juste une question de au cas où il y a un problème, puis on va avoir une commission d'enquête future.
Non, c'est juste une pratique.
C'est juste
normale.
Une bonne pratique. C'est une bonne pratique si on veut après ça répéter nos expériences, si on veut apprendre, si on veut par exemple faire d'autres transitions numériques dans d'autres secteurs, ben pouvoir apprendre des meilleures pratiques sans être obligé de toujours appeler les gens qui étaient là pour leur demander « Ah, comment t'as fait ça la dernière fois? » Si tu peux juste regarder le paper trail, pour dire une expression anglaise, ça permet au gouvernement de gagner en expertise, de gagner en confiance. C'est juste une bonne pratique de gouvernance. Et le fait qu'on ne semble pas le faire de façon particulièrement poussée, ce qui nous mène à être obligés de faire venir des ministres, un premier ministre bientôt, en commission pour lui demander de quoi ils se souviennent quand ces gens-là ont des centaines de réunions par mois, je trouve que ça montre une gouvernance qui est peut-être un peu défaillante.
As-tu hâte de voir François Legault témoigner?
J'ai hâte à l'exercice. Je trouve que c'est super intéressant qu'un premier ministre en fonction se présente à une commission d'enquête.
C'est gros.
C'est pas quelque chose qui est arrivé de souvenir. Je pense que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du Québec. Oui, j'ai hâte, mais je veux dire, j'ai surtout hâte de voir sa mémoire à lui avoir ressemblé à quoi.
Ouais, exactement.
Je veux dire, à quel point lui aussi était impliqué. Je veux dire, je comprends que oui, 500 millions, c'est pas des peanuts, mais François Legault est responsable de la gestion du... C'est responsable de l'État québécois au complet, qui a un budget de 62 milliards à peu près. Alors, c'est plate à dire, mais je pourrais comprendre que lui, en effet, un contrat de 500 millions, peut-être que ça ne l'a pas tant marqué que ça il y a 3 ans.
Mais ce qui est intéressant dans le fait que François Legault soit convoqué, c'est qu'on le convoque pas pour rien. Si on le convoque, c'est qu'on a des courriels à y montrer, c'est qu'on a des textos à y montrer, c'est on a des, entre guillemets, preuves à y mettre d'en face pour aller chercher. Puis... on va pas y mettre d'en face quelque chose qui est un courriel peut-être de Guilbeault à Caire. Si on amène François Legault, c'est parce qu'on est proche de François Legault puis que c'est des courriels que lui a reçus, que lui a envoyés ou qui étaient en CC. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on se rapproche du premier ministre.
Oui, au minimum, on va lui demander, bon, ben, est-ce que telle personne dans ton bureau t'en a parlé?
Oui.
Parce que peut-être que, je pense pas qu'on va aller jusqu'à dire, bon, voici un courriel que la ministre Guilbeault t'a envoyé à toi.
Pour te dire qu'on était rendu à 680 millions.
Mais, tu sais, sûrement que... moi, j'ai pas énormément d'attentes. J'ai l'impression que ça va être une série de questions du genre, est-ce que tel employé de ton bureau t'a parlé de telle chose? Est-ce que tel employé de ton bureau t'a parlé de telle chose? As-tu eu vent? Est-ce que ça a été discuté dans le Conseil des ministres?
Il ne se souviendra pas.
Puis probablement qu'en effet, il ne se souviendra pas. Puis encore une fois, je veux dire, pour moi, ça revient à une question systématique de prise de notes, mais j'en ai eu des critiques envers le gouvernement de la CAQ. Là. Je ne suis pas un fan du gouvernement de la CAQ, mais je comprendrais que pour quelque chose, une réunion que François Legault a eue il y a 2 ou 3 ans sur un contrat de, oui, c'est pas rien, 500 millions, je comprends, mais sur l'ensemble du budget du gouvernement du Québec, c'est pas énorme qu'ils s'en souviennent pas que ce qui a été délégué ça à d'autres personnes. Ça serait quand même pas déraisonnable, je trouve.
Salut Arlène qui nous écrit, je vous écoute d'une oreille distraite et je n'arrête pas de penser à ce que j'ai mangé vendredi dernier. Donc Arlène qui s'en souvient pas. En effet, c'est très difficile de se souvenir de ce qu'on a mangé vendredi dernier. Es-tu étonné de l'ampleur que la commission Galland prend? Moi, t'es le fait que le premier ministre va aller témoigner mardi prochain de la façon qu'on a cuisiné François Bonnardel et Geneviève Guilbeault. Je pensais pas que le gouvernement serait autant épluché que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Je suis étonné vu l'ampleur que ça prend par rapport au montant financier. T'sais, encore une fois, 500 millions, c'est pas rien. Là. C'est un gros montant, c'est notre argent. Mais... on a eu des ratés plus gros que ça dans l'histoire du Québec qui n'ont pas donné lieu à une commission d'enquête.
Par contre, est-ce que justement ça prend cette ampleur-là parce qu'on est dans le premier balbutiement d'une transition numérique et là on fait juste regarder ce qui est en train de se passer en santé puis on se dit OK, c'est à cause de ces 500 millions-là vont s'additionner puis vont devenir des dizaines de milliards de dollars.
Oui, je pense que c'est ça. Et probablement qu'une des raisons que les partis d'opposition ont tellement martelé cette chose-là, qui ont essentiellement forcé le gouvernement à tenir une commission d'enquête, c'est parce qu'on sait que dans les coulisses, il y en a d'autres, des projets de virement numérique qui vont pas très bien. Et on se dit, bon, ben faisons tout le cirque d'avance. Faisons-le maintenant sur une chose qu'on sait qu'est-ce qui se passe, où on a au moins assez de capacité d'aller chercher l'information, pour qu'après ça, tous les autres projets, ça va être tellement sensible qu'à la moindre information, comme de quoi il y a un dépassement, on va tout de suite pouvoir associer ça à ce qui se passe à la commission Galland. Ça va faire très mal aussi.
À la lueur de ce qu'on a vu à date puis de ce qui risque de s'en venir, qu'est-ce qu'on va en tirer de cette commission Galland-là? Qu'est-ce qui va en sortir concrètement? On va-tu commencer à prendre des notes?
Ben, je pense qu'une des choses qui va ressortir, je veux dire, moi, je me souviens... pardon, je me souviens des commissions d'enquête sur la construction.
Oui, dans la commission Charbonneau.
Oui, dans une vie antérieure, je travaillais dans ce domaine-là de façon très, très accessoire, mais quand même. Et ça a complètement changé la façon que les contrats étaient donnés pour, dans l'industrie de la construction. Je pense que beaucoup des choses qu'on voit, on voit par exemple des appels d'offres sur mesure ou un appel d'offres qui est supposé respecter les règlements d'appel d'offres où tu peux avoir plusieurs soumissionnaires. Ouais. Mais la façon que l'appel d'offres est écrit, clairement, il y a juste une personne qui peut le remplir.
Non, c'est ça, c'est tellement technique particulier. Ouais. Il y a aussi le scindage de contrat qu'on voit.
Oui, je pense que ça, c'est des pratiques qui va falloir qu'on fait bien de mettre à la lumière. Et que probablement qu'un des résultats de la commission d'enquête, ça va être des mesures additionnelles, en tout cas je le souhaite, des mesures additionnelles pour s'assurer que ce genre de choses-là ne se produit pas. Je pense qu'on a aussi beaucoup de questions à se poser, à savoir ben, pourquoi on semble avoir si peu d'expertise à l'intérieur du gouvernement sur des questions numériques qu'on est obligé essentiellement de se fier aveuglément à l'industrie pour... à faire de l'écriture de notre appel d'offres jusqu'à l'exécution finale, puis après ça, on signe un chèque, puis on sent un peu comme si on est quelqu'un qui amène notre auto au garage, a fait un drôle de bruit, on connaît pas ça, on est un peu obligé de payer ce que le mécanicien nous dit parce qu'on n'a pas suffisamment d'expertise. Bon, ben, c'est sûr que moi, je connais pas assez la mécanique d'automobile, j'étais un peu obligé de faire confiance à mon mécanicien, mais je m'attends à ce que le gouvernement ait suffisamment d'expertise pour au moins comprendre c'est quoi les projets qu'il est supposé gérer.
Il y en a beaucoup qui, puis c'est un peu en lien avec ce que tu dis, il y en a beaucoup qui mettent le blâme pas mal plus sur la machine que sur les ministres. Parce que là, on voit que, OK, telle personne a informé telle personne qui aurait dû informer le ministre, l'as-tu informé, là-dessus. Puis là, on se demande, OK, mais il y a donc ben du monde là-dedans. Un gros projet de même, ça devrait être le ministre qui parle à tel ministre, qui parle au premier ministre. Là. Il ne devrait pas avoir 200 personnes là, qui se parlent, puis que là, on ne sait comme plus qui sait quoi. C'est un problème aussi qu'il y a trop de monde qui gère des enjeux importants de même, alors que nous autres, on vote pour des députés qui, bon, éventuellement, certains deviennent ministres. C'est eux autres qui devraient être au courant des gros, gros, gros dossiers, pas tout le monde qui travaille autour.
Ouais, tu fais bien de le dire, parce qu'une autre chose qui est gros dans la discussion médiatique autour de la Commission Galant, c'est qui savait quoi? Est-ce que Geneviève Guilbeault le savait? Ça, pour moi, c'est une autre distraction, parce que comme tu le dis, la responsabilité ministérielle, elle est absolue. Le ministre, la ministre est responsable pour tout ce qui se passe à l'intérieur de son ministère et ne peut pas dire « je le savais pas », peut pas dire « on m'a caché des informations ». C'est la responsabilité du ministre, de la ministre, de faire toutes les démarches nécessaires pour savoir ce qui se passe dans son ministère. Et puis, s'il y a des gens qui sont pas de confiance, ben c'est la responsabilité du ministre ou de la ministre de clairer ce monde-là. Ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire au très haut niveau des fonctionnaires. Ils ont tous les outils nécessaires pour faire les enquêtes internes s'ils ont besoin de le faire et on se fie à eux pour le faire. Alors, toute cette discussion-là sur « je le savais pas, on m'a caché de l'information », pour moi, c'est pas une défense, c'est une admission qu'ils ont mal fait leur travail.
En effet, t'as tellement raison. Excellent texto qui est rentré, 418-971-1021. Étonné de voir le peu de notes prises à ce niveau de gouvernance alors que le gouvernement oblige les organismes à but non lucratif à des pratiques de gouvernance sévères pour obtenir leur subvention, dont tenir des procès verbaux des réunions de conseils d'administration.
Ben ouais, t'sais, c'est...
Entièrement d'accord, j'ai travaillé dans le financement des organismes communautaires puis les redditions de comptes pointu qu'on doit remplir.
C'est ça.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
C'est ça. Ouais, exactement. Si t'as une co-op de ton immeuble où vous êtes 8 à vivre dans un bloc qui vous appartient collectivement, vous êtes obligé de tenir des procès-verbaux avec des notes de genre qui était à la réunion, c'était quelle date, de quoi vous avez parlé. Il me semble que c'est la moindre des choses de demander au moins ça du gouvernement.
Pour rappel, on parle avec Farnel Morissette, vulgarisateur d'actualité concernant la commission Galant. L'autonomie des sociétés d'État, justement, moi, je crois que ça va être remis en cause, qu'elles devront rendre des comptes plus assidus au gouvernement, parce que c'est un des problèmes qu'on voit là, dans cette commission-là, que la SAC pouvait naviguer comme bon lui semblait dans cette transition numérique.
Oui, ben, je pense que l'autonomie, ça revient un peu aussi à la question de compétences internes. On peut avoir des organismes publics qui sont hautement autonomes s'ils sont aussi hautement compétents. Ou on peut avoir des organismes publics qui sont tenus très serrés par le gouvernement s'ils n'ont pas la compétence interne. Plus, je ne suis pas en train de traiter des gens d'incompétents, là, je veux dire dans le sens de les capacités techniques, l'expertise nécessaire dans les technologies, etc. On peut avoir un ou l'autre, mais on ne peut pas avoir les deux. Et je pense que ça, c'est probablement une des recommandations, en tout cas, je l'espère, qui va sortir, c'est que moi, je préférais qu'on prenne la voie où les organismes publics aient une expertise interne pour qu'on puisse justement leur donner un peu plus de flexibilité, pour qu'il y ait un peu moins de jeux partisans à dire « Ah ben, parce que c'est toujours ça le danger, là, si les organismes publics sont contrôlés de façon très serrée par les ministres, ben là, on voit une élection venir, on va dire « Ah oui, tu vas l'avoir ton pont, ou oui, tu vas l'avoir ton projet. » T'sais, on a déjà eu de la politique de même aussi, on veut pas ça. Il y a un équilibre à trouver, mais je pense que cet équilibre-là passe nécessairement par une beaucoup plus grande compréhension, beaucoup plus grande compétence technologique, technique dans les projets qu'ils mènent.
En terminant, nécessairement que le remaniement ministériel va être repoussé parce que François Legault va passer à la commission Galland mardi. Est-ce que tu vois une possible prorogation de l'Assemblée nationale pour ne pas que ça débute le 16 septembre, le temps que la CAQ se réorganise après le passage de François Legault?
Alors, tu vois, moi, je serais pas surpris que ce soit l'inverse, qu'après le passage de François Legault, très rapidement, on fasse le remaniement pour pouvoir passer à autre chose,
pour
pouvoir contrôler le cycle médiatique pour qu'on parle de quelque chose d'autre. On verra si le passage de François Legault va très bien. Peut-être qu'ils vont laisser ça spinner positivement 2-3 jours, mais plus probablement que François Legault va passer, puis immédiatement, ou en tout cas, je dis probablement. Mon guess, moi, si j'avais à deviner, très rapidement après le passage de François Legault, on va faire le remaniement ministériel pour changer la conversation.
Ça m'amène à une dernière question. Est-ce que les ministres, les nouveaux ministres, ont le temps de s'approprier leur dossier parce qu'ils vont être attaqués pas à peu près à l'Assemblée le 16 septembre?
Ben, c'est un peu la nature d'un remaniement ministériel. Je veux dire, la responsabilité du ministre, c'est de s'approprier ses dossiers rapidement. Ouais. Et puis, on espère que la transition va mieux se faire que des transitions entre ministres à l'intérieur même de la CAQ qu'il y a eu dans le passé où ça semblait être table rase.
Tu penses au petit courriel de trois phrases sur le projet Satellite quand t'as l'air généreux puis le chef de cabinet de
C'est ça. Je pense à clairement, on croirait à des transitions entre députés qui ont été déchus, remplacés par d'autres personnes, où tu rentres dans le bureau et il n'y a plus rien. Là. C'est quand ça. Même, je veux dire, que ça se fasse entre ministres du même gouvernement.
Ouais.
On parle de prendre de mauvaises notes et de mauvaise gouvernance, ça, c'est en est un bon exemple.
C'est sûrement signe qu'il y avait des petites gaguères à l'interne.
Ouais,
aussi,
j'ai l'impression que la coalition Avenir Québec ne coalise plus très bien.
Non, là, exactement. Non. François Bonnardel et Geneviève Guilbeault en sont deux qui ne coalisent pas bien. ensemble. Parnell Morissette, toujours un plaisir. Il est le meilleur vulgarisateur d'actualité. Si vous ne le suivez pas encore, allez le suivre sur les médias sociaux, notamment sur TikTok. Merci beaucoup pour ta présence ce matin avec nous. Puis je te souhaite une excellente semaine.
Merci, ça me fait plaisir.
Merci. On a passé à travers le match Boulevard des Capitales de Québec hier soir et samedi, ce sera le premier tailgate du Rouge et Or Football, Boulevard 102.1, il sera. Et pour parler de ce premier match, on aura nul autre que Mathieu Bertrand, responsable du recrutement et entraîneur des unités spéciales du Rouge et Or, avec nous en studio immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est Boulevard Against le matin.
Jusqu'à 10h, Boulevard Against le matin. 102.1.